VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, coup de feu hier soir dans le camp de la garde présidentielle à Ouagadougou. Installation militaire proche de la présidence, d'où des interrogations et même des inquiétudes dans la population. Les explications de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Lundi soir, il y a eu des tirs du côté du palais présidentiel, précisément au niveau du camp de la garde présidentielle. Ça n'a pas trop duré. L'incident peut s'expliquer par le fait que la gendarmerie nationale a entendu le chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, le colonel Céleste Koulibaly, et deux de ses éléments concernant l'atterrissage de l'avion du premier ministre qui revenait d'une tournée en Turquie. L'avion devrait descendre normalement à l'aéroport de Ouaga, mais il a été dévié à l'aéroport de la base aérienne. C'est concernant cette déviation-là que la gendarmerie a voulu comprendre. La tension est d'autant plus grave que le président du Faso, ce mardi-là, devrait rencontrer les organisations de la société civile. À la dernière minute, on a appris que cette rencontre entre le président et le GSC est reportée ce midi.
Maintenant, les activités du géant français du nucléaire Areva au Niger, longtemps accusé de ne pas contribuer par des actions concrètes au développement du pays, notamment dans la région où il exploite l'uranium depuis plus de 40 ans. Areva veut absolument prouver le contraire. La compagnie vient de signer avec le gouvernement nigérien une convention de financement d'un projet de développement local d'un montant d'environ 12 milliards de francs CFA. Le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le financement de ce projet est l'un des engagements pris par Areva lors de la signature de l'accord de partenariat stratégique avec le gouvernement nigérien en mai 2014, accord qui sanctionnait les longs mois de discussions entre les deux parties pour le renouvellement des conventions minières qui les lient. La convention qui a été signée l'a été pour le financement de la phase d'implantation même du projet puisqu'il y a eu déjà deux années concluantes d'expérimentation. Chegou Maman est le chef du projet.
Dans la phase pilote, nous avons mis en valeur 120 hectares pour un objectif physique de 100 hectares. Nous sommes donc arrivés à 120%. Le projet Iraser a démontré quels sont les systèmes d'irrigation les meilleurs pour la région, quelles sont les cultures les meilleures pour la région et quels défis auxquels nous allons faire face, notamment l'organisation des producteurs, la bonne gestion et surtout la commercialisation. Pour la phase de développement, la phase d'implémentation, nous allons intervenir dans le Iraser sur une vingtaine de sites, mais également nous allons peut-être faire jusqu'à 60 sites dans l'Aïr, les petits jardins privés. Le tout, c'est 1000 hectares que nous visons pour les 5 ans.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Mali, la vie normale continue dans les administrations et dans les tribunaux malgré les violences liées à l'ex-rébellion. À preuve, la fin des travaux de la première session de la cour d'assises de Bamako cette semaine. Le bilan de la session avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Pendant cette session, sur les 150 dossiers, 7 ont été renvoyés, 147 jugés, soit un taux de 93%. Il y a eu 21 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, 15 assorties de sursis, 33 à la réclusion à temps, 15 à perpétuité, 11 peines de mort prononcées, dont 8 par contumace. Cette session qui a duré un mois a permis 23 acquittements, 4 cas où l'action publique a été déclarée éteinte et 48 condamnations par contumace. À retenir que sur les plans financiers, les amendes prononcées s'élèvent à 56 millions de francs CFA, les dommages et intérêts à 33 millions de francs CFA et les remboursements à 65 millions de francs CFA. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Réapparition de l'Ebola au Libéria. Un nouveau cas de la maladie, un jeune homme décédé le 24 juin, a été signalé dans le comté de Marguibil, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone, les deux autres pays affectés par le virus. Des recherches sont en cours pour déterminer où le défunt a pu être contaminé. L'éradication de la maladie au Libéria avait été officiellement proclamée il y a près de deux mois, le 9 mai.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La guerre contre Boko Haram maintenant, des dizaines de membres présumés du groupe islamiste nigérian arrêtés ces jours-ci au Tchad dans le cadre de l'enquête sur le double attentat sanglant à N'Djamena à la mi-juin. Le FBI, la police fédérale américaine, a apporté sa contribution à ce coup de filet. Le point avec le ministre tchadien de la justice, Mahamat Issa Alikimi, au micro de Jacques Aristide.
Nous avons aujourd'hui presque 70 personnes qui sont suspectées impliqués dans les attentats du 15 juin dernier.
Nous apprenons que des enquêteurs américains, FBI notamment, sont arrivés dans la capitale. Pouvez-vous nous en parler ?
Absolument. Ils sont arrivés juste après le 15 juin. Ils nous ont appuyés sur l'identification d'explosifs et les gilets. Tout ce qu'ils nous ont dit s'est avéré aujourd'hui vrai. Et donc, ils ont travaillé sur la nature d'explosifs, les modes opératoires. Et donc, le double attentat, c'est le même engin explosif et les mode opératoire, c'est des explosifs qui est artisanal. Et même les gilets, nous avons parlé des gilets noirs et aujourd'hui, effectivement, on avait découvert que des gilets noirs. C'est la même cellule. C'est une aide américaine qui nous a aidés dans notre enquête.
Le ministre tchadien de la justice, Mahamat Issa Alikimi, a noté que les experts du FBI ont maintenant quitté le Tchad. Au Burundi, dépouillement des scrutins d'hier, le CNDD-FDD au pouvoir se dit satisfait du taux de participation à ces élections boycottées par les opposants. Difficile de savoir si leur mot d'ordre d'ignorer le scrutin a été suivi par les électeurs, Nicolas Pinault.
Aucun taux de participation, même partiel, n'a été dévoilé hier par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI burundaise, qui devrait mettre plusieurs jours avant de pouvoir communiquer les résultats de ce scrutin plus que controversé. Alors que le pouvoir burundais parle d'une mobilisation massive, de nombreux bureaux de vote sont restés vides et la participation a été plus que timide à certains endroits, y compris à Bujumbura, la capitale. En revanche, dans les fiefs du CNDD-FDD, la mobilisation a été plus conséquente. Le résultat de cette élection, lui, ne fait aucun doute. La victoire annoncée du parti au pouvoir ne sera ni reconnue par l'opposition burundaise ni par la communauté internationale qui a dénoncé le climat pré-électoral délétère et demandé un report des élections, y compris de la présidentielle.
RCA, les opérations de recensement électoral sont en cours depuis lundi. Le lancement officiel a eu lieu à Bangui, en présence de la chef de l'État Catherine Samba Panza. Le reportage de notre correspondant dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
Les opérations ont été lancées dans l'école Jean Colomb à Ngaragba en présence des autorités nationales et de la communauté internationale. La première inscrite, Catherine Samba Panza, en appelle à une forte mobilisation des centrafricains en âge de voter.
En tant que chef de l'État, je ne voulais pas le faire de manière anonyme. Il fallait que je donne l'exemple pour inciter tous les citoyens centrafricains en âge de voter de faire comme moi.
Après le passage de la présidente de la transition, Jean-René Ndrumokato, chef de quartier Botoro Ngaragba, s'est inscrit lui aussi. Il exprime sa satisfaction.
Ça, c'est un devoir des citoyens. Il faut avoir un président démocratiquement élu. Comme ça, il nous gère le pays.
Ces opérations lancées ce 29 juin devront durer jusqu'au 11 juillet prochain. Freeman Sipila, Bangui, Voix de l'Amérique.
En RDC, 55e anniversaire de l'indépendance aujourd'hui, dans son discours à la Nation hier, le président Joseph Kabila a expliqué pourquoi il avait initié des consultations en vue d'un dialogue avec l'opposition, notamment avant les prochaines élections. On écoute le chef de l'État congolais.
J'ai donc engagé la nation sur la voie de consultation et éventuellement du dialogue, afin qu'ensemble, majorité, opposition et société civile puissent convenir de voies et moyens permettant de surmonter les obstacles qui jonchent la marche vers la troisième série d'élections générales. Ces obstacles sont liés au calendrier électoral, au financement du processus électoral. À eux seuls, le besoin pour l'organisation réussie des élections s'élève à plus $1 milliard.
Le président de la RDC, Joseph Kabila. Ici aux États-Unis, la Cour suprême américaine a jugé lundi, conforme à la Constitution, une méthode controversée d'exécution par injection létale. Des précisions avec Michel Joseph.
Le midazolam est un anxiolytique utilisé avec l'intention de rendre le condamné inconscient avant l'administration du produit mortel. Par 5-4, les 9 sages ont estimé que les plaignants des condamnés à mort de l'Oklahoma n'avaient pas montré un quelconque risque substantiel de souffrance en cas d'utilisation du midazolam. En conséquence, la Cour suprême a jugé cette méthode d'exécution conforme au 8e amendement de la Constitution qui interdit les souffrances cruelles et inhabituelles.
Et pour terminer, crise de la dette grecque, Athènes confirme qu'il ne remboursera pas le Fonds monétaire international comme il devait le faire ce mardi. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.